saine cause. Du bien commun et d'un monde vivable. Émission présentée par André Duny.
Bonjour, chronique de la CEN. Nouvelle éducation populaire, toujours André Duny. Bon, André Duny devrait être à la manif de Chambéry, hein, c'est la 17e journée de manif, c'est 40e journée de grève, et je suis, comme vous l'avez vu, à fond dans cette lutte, comme j'étais à fond et comme je suis toujours à fond avec celle des Gilets jaunes. Hein, si le fond de l'air est jaune, le jaune est rouge, le rouge d'aujourd'hui est jaune. Les luttes d'aujourd'hui ressemblent fort à celles d'hier. Voilà. Alors, mais avant de vous parler des inégalités en France, et peut-être d'une manière de comprendre comment elles se génèrent, et aussi d'une manière de comprendre comment on peut les surmonter, car rien n'est fatal. Hein. L'histoire, et c'est ça qui est utile, hein, c'est de regarder comment dans l'histoire, des peuples qui étaient au bout du rouleau, ou qui étaient spoliés, ou qui étaient exploités, ou qui étaient pressurisés, ont su trouver les moyens de s'en sortir. Hein. Le pire du pire, c'est quand même, vous vous en souvenez, la débâcle de 1940, qui a abouti à, peut-être pas la résistance en masse du peuple, mais quand même toutes sortes de formes de résistance, même s'il y a eu que, dit-on, 3 ou 400 000 résistants affirmés en France sur 45 millions, c'était pas énorme. Mais beaucoup de gens ont pris toutes sortes de formes de résistance. Eh bien, le pire du pire a été la débâcle, le pire du pire a été l'occupation nazie, le pire du pire a été que les nazis ont brûlé 6 millions de personnes juives, mais ils en ont aussi éliminé à peu près 2 ou 3 millions dites slaves, qui étaient des Russes prisonniers qu'ils ont laissés mourir de faim et qui mangeaient l'herbe et qui mangeaient leurs copains. La barbarie nazie, on l'a vaincue. Ce qui arrive, je pense que c'est, comment dire, une sorte de barbarie beaucoup plus lente et beaucoup plus, comment dire, invisible, mais c'est la barbarie des plus riches de riches qui veulent absolument tout transformer en marchandises, aussi bien nos retraites que tout ce qui est l'éducation de nos enfants et qui est notre santé. Donc, si on peut essayer de comprendre ça, on pourrait mieux se positionner sur ce que nous pouvons faire et ce que nous faisons déjà, puisque nous sommes très nombreux, évidemment, en France. Mais actuellement, on est dans une guerre. C'est Macron qui nous fait la guerre. Et la retraite à points, on en veut point, comme on le disait à la manif dernière, en vous... Et puis, je vais passer à un sujet plus riant. Mais j'étais à la dernière manif et j'étais sur le char... Si on peut dire, il y avait deux tracteurs hein, avec des bottes de foin. Et j'étais sur l'un et je descendais discuter avec les adhérents de la CGT et de Force ouvrière qui étaient en tête de ligne après avoir obtenu que les Gilets jaunes fassent partie du tête de manifestation parce qu'eux, ils ont quand même, qu'on le veuille ou non, largement ouvert la fierté pour moi d'être français, la fierté des Français qui ont comme identité, non pas d'être français depuis 20 générations, mais qui ont comme identité d'être un peuple qui a su dire non au roi, qui a su lui couper la tête, qui a su mettre en place une démocratie, bon, représentative, hein, assez bourgeoise, mais quand même une démocratie, c'est-à-dire que au moins le peuple devait faire la loi. Alors, ce qui s'est fait, c'est qu'on lui a rapté son pouvoir par la démocratie représentative, qui est plutôt un régime parlementaire représentatif plutôt que la démocratie. Mais le peuple français a fait d'énormes révolutions. Pour moi, celle de 93 avec Robespierre et l'émergence des sans-culottes. Et puis celle de 1830, hein, les canuts à Lyon et les manifs à Paris. Et puis celle de 1848 qui a été en quelque sorte violentée, détournée et raptée par le sinistre Napoléon le Petit que fustigeait Victor Hugo. Mais surtout, pour moi, une des révolutions sur lesquelles le silence s'est abattu depuis un siècle et demi, ça a quand même été la Commune de Paris qui a inventé la démocratie directe. parce qu'à Commune de Paris, personne n'élisait personne. C'est les assemblées générales d'arrondissement qui déterminaient quels critères on devait élaborer tous ensemble pour désigner nos représentants. Et seulement après, on les élisait. C'est un peu aujourd'hui, comme je vous en ai parlé une fois, l'élection sans candidat. Vous avez une assemblée générale dans un patelin, mettons, de l'avant-pays savoyard ou de Chartreuse. L'assemblée générale des habitants est nombreuse. Il y a une trentaine, quarantaine de personnes. Il y a 11 places pour, ou 12 places ou 15 places au conseil municipal, parce qu'on a quand même contraint par la loi de voter un conseil municipal. Mais le conseil municipal peut très bien être qu'un exécutif d'une assemblée des habitants ou de commission des habitants qui négocie avec lui les grandes décisions à prendre pour la commune. Je dis bien les grandes. On ne peut pas être toujours en réunion et toujours pris. On a des enfants élevés, etc. Eh bien, la Commune de Paris, puisque je vous disais que la question démocratique était opposée aussi par la guerre que Macron fait au peuple, qu'il ne veut absolument pas entendre. Et Macron, c'est donc la caste, c'est donc le représentant des plus riches, c'est donc le représentant des multinationales. Eh bien, pour la Commune de Paris, qui avait en face d'elle un pouvoir également, disons, aristocratique, pour ne pas dire oligarchique, on n'employait pas le terme à l'époque, la Commune de Paris a déterminé 15 critères. Premièrement, que ce soit un individu. Alors, à l'époque, c'est vrai que les femmes passaient au second plan, hein, on va pas... Mais que ce soit un individu, un homme, qui ait montré depuis au moins 15 ou 20 ans qu'il était au service du bien commun dans son quartier... Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a plein en Chartreuse, il y en a plein dans l'avant-pays savoyard, il y en a plein dans la Grésivaudan. Des gens qui, sans forcément se mettre en avant, sans égo dilaté, sans vouloir aller aux élections ou sans vouloir être maire ou calife, sont des braves gens du peuple, comme moi j'ai connu, moi qui suis fils d'ouvrier agricole, hein, je vous le rappelle, puis devenu fondeur aluminium, eh bien, et maire handicapé et analphabète. Si vous voulez, je vois que dans le peuple, il y a plein de gens. Eh bien, c'est ces gens-là qui étaient le premier critère pour désigner quelqu'un qui représenterait l'arrondissement à Paris. Premièrement, un homme du peuple dévoué au bien commun, qui était dans toutes les actions, toutes les luttes pour que le peuple dispose d'un peu de santé, d'un peu de transport, d'un peu de quoi manger, etc. Le deuxième critère, c'était qu'il n'est pas riche. Ah, bah écoutez, c'est sympa, mais l'Assemblée nationale est un repère de riches. L'immense majorité des gens à l'Assemblée nationale gagnent plus de 7500 euros par mois. Voilà, il y a un ouvrier, hein, messieurs, dames. Et je ne suis même pas sûr que ce soit un vrai ouvrier. Il y a une quinzaine d'employés et de luxe, hein, des employés, on peut être employé à 3000 par mois, hein. Et puis tout le reste, ben, ce sont des cadres supérieurs, profession libérale, enseignants, patrons de l'industrie et du commerce, bref, du beau monde, qui forment d'ailleurs l'essentiel du bataillon des En Marche. Et donc, deuxièmement, qu'ils ne soient pas riches. Troisièmement, non seulement ils se dévouent au bien commun, mais qu'ils ne soient pas trop bien causeurs. Vous voyez, moi, j'aurais peut-être du mal, et d'ailleurs c'est sympa, mais je ne me présente pas à l'épin, tant mieux, et je me suis présenté nulle part, qu'ils ne soient pas trop causeurs ni trop instruits, parce qu'ils pourraient nous embobiner. Parce qu'une fois élus, on peut toujours tourner Kazakh, vous l'avez bien vu avec Monsieur Hollande, vous l'avez vu comment son ennemi la finance est devenu son principal ami. Voilà. Donc, il y a une détestation du pouvoir en France. On en a ras-le-bol de cette démocratie qu'on appelle représentative et qui, avec 13,5% des voix pour M. Macron au premier tour des présidentielles de 2017, a porté à la tête de l'État ce jeune homme inconnu ayant fait preuve de rien, sauf d'être dans les cabinets ministériels et d'avoir échoué 3 fois l'école normale supérieure, voilà, ça craint un peu, et d'avoir fait l'ENA, qui est l'endroit de grandes écoles où se forment ces gens de la caste qui pantouflent dans l'État, regardent, se font un carnet d'adresses, puis vont vite dans le privé devenir les PDG du CAC 40. Hein, je vous le rappelle, 80% ou 85% des PDG des grandes entreprises privées, bien sûr, multinationales françaises, comme Total, comme les ciments Lafarge, etc., sont des énarques, point. Donc une caste passe à la commande de, sans mettre plein les poches, hein, en rappelant hein, que leur moyenne de salaire, c'est quand même en gros 1 million par mois, hein, c'est à peu près la moyenne des rémunérations, 1 million par mois, c'est-à-dire des dizaines et des centaines d'années de SMIC pour les braves gens qui travaillent à la base. Voilà, alors dans les critères de démocratie, il y a ceux qui ont pris le pouvoir par la démocratie représentative et il y a une forme de démocratie directe que les Gilets jaunes ont mis en lumière et merci toujours à eux, hein, vu les émissions que j'ai faites aussi, d'avoir dit qu'on pouvait fort bien faire les lois par un référendum d'initiative citoyenne. C'est au bout de 200-300 000 pétitions, ça a été repris par la France Insoumise, le Parti Communiste, etc. À partir de 300-400 000 ou 500 000 pétitionnaires ont... qui veulent une loi, on dépose cette loi. Bien entendu, tout ça est à prendre avec aussi quelques précautions, parce que si c'est pour que les médias milliardaires, hein, vu que 95% de nos titres de presse et notre télévision est gouverné directement par les milliardaires, ils pètent de l'argent, hein. Pigasse a géré comme PDG Le Monde, hein, Monde ou Libération. Hein, ces milliardaires gèrent des journaux, soi-disant, du centre-gauche ou de gauche, en fait. Ils gèrent surtout leurs intérêts pour qu'on en parle le moins possible. Mais qu'on puisse parler de la PMA, de la GPA, des discriminations à tour de bras. Plus on va détourner sur le risque de la Marine Le Pen, le ceci et cela, pendant ce temps-là, les riches nous font les poches. Et ils encouragent... au maximum que les pauvres, eux, se bagarrent entre eux, entre les fâchés fachos, les fâchés pas fachos, les pas fachos de gauche, les pas fachos de droite, ou qui croient être de droite, et qui en fait en ont ras-le-bol de ce système. Voilà. Alors, vous avez bien compris, premièrement, dans l'histoire de France, il y a eu des mouvements d'enfer où le peuple s'est sorti de situations bien délicates, où il a su désigner ses représentants avec la démocratie directe, qui s'appelle la Commune de Paris. Hein, quand j'avais mes étudiants en amphi, et qu'à Lyon, et que je leur demandais, il y en avait 180, 130, 140 dans l'amphi, en leur demandant gentiment, est-ce que quelqu'un sait quand a eu lieu et qu'est-ce qui s'est passé pendant la période de mars à mai 1871, après la défaite de Sedan, et que les Prussiens étaient au nord de Paris, et que l'armée française était repliée du côté de Versailles. Et vous avez, je sais pas, 5, 6, 7 mains qui se levaient. C'est-à-dire, il y a un alphabétisme historique. Revenons à l'histoire, c'est une bonne manière de comprendre comment on va se débarrasser d'un système qui nous empêche de maintenir le système de la sécurité sociale. C'est le système le plus juste, même s'il reproduit des injustices, hein, en rappelant qu'un tiers des gens qui sont à la retraite aujourd'hui sont largement en dessous du SMIC, notamment les femmes qui ont eu des carrières brisées par les enfants. Merveilleux d'avoir des enfants, mais il faut bien s'arrêter pour s'en occuper quand l'homme est pris dans la compétition ou vice-versa et qu'il ne veut pas s'occuper de la famille, ce qui est largement le cas. Hein. Bon, la personne qui vous parle, elle fait le jardin, elle fait le chiotte, là, hein, etc. Bon, je veux pas, on m'a posé la question, un jour je pourrais dire ce que je fais à la maison, mais... C'est quand même intéressant de, hier soir, après une petite randonnée à Sainte-Marie d'Alvey, où je visitais, je vous en parlerai, je vais les interviewer, le nouvel atelier, dont la meule date de 1820, une meule qui était tournée par deux bœufs pour fabriquer de l'huile de noix à 15 €, une pure merveille. Donc j'étais à Sainte-Marie d'Alvey, on randonnait. Et une des personnes avec qui je randonnais disait « Ah, mais c'est tu connais la dernière ? Eh ben mon copain, il veut qu'on aille faire, des non pas des randonnées dans le pays, mais qu'on aille découvrir des terres inconnues. » Ah, je lui ai dit « Eh ben écoute, tu pourrais venir voir ma cuisine ?» Voilà, donc les femmes ont eu des carrières brisées. Outre le fait qu'elles sont l'objet de tas de violences, 2 sur 3 hein, ont été agressées, c'est inimaginable dans un pays de haute culture et de civilisation, il y a un énorme boulot à faire, mais tout ça s'explique aussi par le fait que la domination est le modèle dominant, si on veut pas trop se répéter, de ces pouvoirs économiques qui gèrent les entreprises, qui gèrent les médias, et qui gèrent aussi la vente massive de jeux violents, qui éduquent nos enfants à la violence, qui ont comme modèle ceux qui réussissent par la violence. Les États-Unis, pays le violent, l'Israël, pays extrêmement violent. Tous ces gens-là ont conquis des territoires, se retirent pas, changent les régimes, répriment leur peuple. Combien de Noirs en prison aux États-Unis ? 2 millions. Combien d'emprisonnés ? 2 500 000. En clair, on écarte tous ceux qui se révoltent avec d'excellents prétextes. Hein. On trouve toujours un petit peu de drogue par-ci, une petite faute par-là, et on en met plein la poire à ceux qui se révoltent. Et comme ça, on les met hors circuit. Eh bien, cette violence-là est l'image même du pouvoir politique qui est au service du pouvoir économique. Et le pouvoir économique et le pouvoir politique, excusez-moi, est la domination symbolique. Hein, les idées dominantes diffusées par les médias aux mains des milliardaires, tout ça forme ce qu'on appelle la violence structurelle, c'est-à-dire la violence du système. Et on voit que la violence des individus. Alors voilà, on va réprimer les gilets jaunes, leur taper dessus. Et en ce moment, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on tape sur les cégétistes, on tape sur les forces ouvrières. Il y a eu X personnes maintenant convoquées au tribunal, comme pour les gilets jaunes. Ça se passe de la même façon. Donc on a bien affaire à un système qui mène la guerre à son peuple. Parce que nous ne sommes pas vraiment, et Macron a piqué une crise, mais nous ne sommes pas vraiment en démocratie, messieurs, mesdames. Demos kratos, c'est pouvoir du peuple. Il n'y a aucun pouvoir du peuple dans cette affaire, puisque 2/3 du peuple français, au sens large, hein, celui qui est tous les adultes, quoi, refuse cette réforme de sa retraite, qui est quand même l'identité française, un peuple fier qui a conquis ça à la libération, comme il a conquis des choses au cours de son histoire. Eh bien, ce conquis social, hein, c'est pas un acquis, hein, c'est un conquis. Eh bien, ce conquis social est mis en pièces au profit des fonds de pension, des milliardaires, etc. Même chose pour l'hôpital. Hein. Vous avez compris que l'hôpital, on le casse parce que ça va faire du bon jus pour les cliniques et ceux qui font des ronds avec la médecine privée.
C'est vrai que les hivers dure au moins 9 mois, des semaines à moins 40 où tu sors presque pas. Mais je m'en calisse pas mal, qu'il fasse chaud ou qu'il caille. Moi j'ai le cœur qui braille pour les filles de Montréal. Les yeux bleus de certaines m'ont fait faire des folies, jeter dans le Saint-Laurent, prôner la monogamie. Aucune moche dans le bercail, c'est une fierté nationale. Moi j'ai le cœur qui braille pour les filles de Montréal. J'ai connu des princesses, j'ai connu des beautés, des histoires de fesses que je suis pas prêt d'oublier. Elles rendent tous mes soucis banals, même mes propres funérailles. Moi j'ai le cœur qui braille pour les filles de Montréal. Les filles de Montréal.
Donc la démocratie, elle n'existe pas lorsque ce sont les marchés qui font la loi. C'est ce que nous essayons de et je pense que c'est ce que le peuple de France est en train de comprendre. Ça n'est pas la dictature. Macron s'énerve en disant « on n'est pas en dictature ». La dictature, c'est quand un clan ou un seul homme décide. Eh ben oui, qu'est-ce que c'est que d'autre que ce qui se passe en France ? Voilà, 2/3 du peuple de France qui dit qu'il ne veut pas de cette retraite à points. La retraite à points, on n'en veut point. Et voilà qu'une clique, on peut le dire, une caste, comme dirait Mauduit ou comme dirait Branco. Il faut absolument que vous lisiez Crépuscule de Branco. Il raconte ses liens avec Macron dans le cabinet Hollande, comment une espèce de crétin diplômé des grandes écoles dirige le pays en s'appropriant les grandes multinationales qu'ils font fructifier à leur profit et ensuite pille l'État. C'est hallucinant comment Macron était dès avant sa campagne présidentielle adoubé par notre principal milliardaire et le premier ou deuxième milliardaire mondial, Bernard Arnault, dont le film de François Ruffin, vous l'avez vu, Merci Patron, montre quelle capacité de saloperie ces gens-là sont capables pour pouvoir continuer d'exploiter. Hein. En rappelant, Bernard Arnault avait acheté Boussac pour une bouchée de pain, sous la promesse, le gouvernement l'avait laissé faire à l'époque, sous la promesse qu'il ne licencierait pas les 30 000 petites ouvrières des filatures et du textile des Vosges. Et ben, il a licencié 30 000 personnes. Et ensuite, il s'est mis sur l'industrie du luxe, évidemment. Il y a de plus en plus de milliardaires. En France, il y a 3 100 000 millionnaires. C'est d'ailleurs ça qui fait le socle de résistance en France. C'est que nous avons et beaucoup de riches qui sont enrichis sur le pillage colonial. Et ces gens qui ont beaucoup d'argent, évidemment, qui soutiennent le clan macroniste, qui soutient, ils en ont rien à foutre des retraites, ils peuvent se payer des complémentaires chez AXA ou chez le grand fonds de pension américain BlackRock. Ces gens-là peuvent se payer une clinique hors de prix, ils peuvent se payer le médecin qui vient gratuitement, enfin pas gratuitement, un médecin peut venir chez vous en honoraire libre, c'est 300 euros hein, la visite. Bien sûr que si vous avez un petit problème de prostate comme j'ai eu, ben c'était 120 euros avec dépassement d'honoraires, en vous rappelant que dans ma première émission, ben je lui ai mis 25 euros, voilà, il n'y avait pas de toucher, il n'y avait pas d'opération particulière. C'était l'examen des analyses de sang, et il voulait prendre 120 euros. Non, je lui ai donné 25 euros, et je n'ai jamais payé un déplacement d'honoraires. Voilà, donc faites comme moi, vous économiserez des ronds en ne payant pas de complémentaires ou encore moins de mutuelles, qui, sous prétexte de rembourser les dépassements d'honoraires, nous ponctionnent plusieurs centaines d'euros par mois. Alors que une sécurité intégrale, comme le propose le PC, la France Insoumise, le NPA et tutti quanti, ferait très bien l'affaire. Et en pleine tempête sociale, voilà ce qui se passe. On a cette clique au pouvoir qui invite 40, 50, 60, 70 patrons du monde entier, des multinationales, voilà, sur le thème que voilà, les plus riches de la planète, parmi lesquels... le PDG d'Uber, Dara Krovatsky, Jamie Dimon de la banque Morgan, Larry Culp de General Electric, Emmanuel Faber de Danone, Daniel Zhang, patron du géant chinois du commerce en ligne Alibaba, parce qu'il y a aussi des multinationales chinoises, russes, etc. Hein, c'est du socialiste comme moi, je suis évêque. Le dirigeant de Microsoft, l'indo-américain Satya Nadella, aura même droit à un traitement de faveur parce qu'il a une réception à l'Élysée avec M. Macron. Donc voilà, en pleine lutte pour que les gens puissent garder ce conquis extraordinaire qu'est la sécurité sociale, il invite les milliardaires pour que, voilà, mettre en valeur l'ensemble de nos territoires, les ravageant un peu plus avec des investissements étrangers pour tirer du pognon sur le dos des travailleurs français. D'ailleurs, entre parenthèses, je voulais juste vous mettre dans la confidence un truc sensationnel que j'ai lu sur Alternative Économique. C'est que nos travailleurs français, ils sont tellement efficaces, tellement diplômés, tellement productifs qu'un travailleur français, que la productivité française, elle est supérieure à la productivité allemande. Elle est supérieure de 10% à la productivité des travailleurs anglais, de 19% à la productivité des travailleurs italiens, 25% de celle du Japon, hein, qui se la coule douce, semble-t-il. Vous vous rendez compte que chaque Français en 2016 aura produit 80 000 euros par an, chaque travailleur en moyenne. Donc, nous sommes très efficaces. Trop efficace, parce que, vous savez, que si on se la coulait douce comme les Japonais, parce qu'on dit que les Japonais sont dans l'enfer, bah oui, ils ont quelques multinationales dans l'électronique, dans la bagnole, comme Nissan associé à Renault, Mais si on travaillait pas plus fort, pas plus vite, et si on se crevait pas, puisque 4 travailleurs sur 10 sont menacés de burn-out en France, beaucoup sont malades, eh bien si nous étions aussi inefficaces, peinards, tranquilles au boulot que les Japonais, qui ont 25% de moins de productivité que nous, travailleurs français, soumis à des cadences, à devoir répondre au téléphone en même temps qu'on fait la gestion comptable, en même temps qu'on règle un problème. Mais c'est hallucinant de voir qu'on a un emploi pour 3 tâches. Eh bien, on se crève le cul, on est super rentable. C'est pour ça que les milliardaires veulent venir en France. Des fois, vous me dites, je fais des digressions. Non, c'est très cohérent. C'est parce qu'on est hyper productif que les milliardaires viennent en France, parce qu'ils vont tirer du jus sur notre boulot. Eh bien, savez-vous que... Alors ça, c'est un scoop. Que si on bossait pas plus efficacement que les Japonais, ça nous créerait 7 millions d'emplois. Parce qu'en bossant moins et en sortant moins de produits, on est bien obligé d'embaucher. Donc, vous voyez bien qu'avec ce qui se passe, l'heure n'est pas du tout à laisser le capitalisme et la clique au pouvoir. L'heure est à partager le travail et partager la propriété et partager le pognon. Bah, c'est simple. Déjà, si on diminuait les cadences et la productivité des Français, on serait obligé d'embaucher des millions de gugus. Et alors ? Eh bien, alors ? Eh bien, les inégalités et la pauvreté en France sont reparties à la hausse et partout dans le monde. Et ça, on en parle beaucoup des inégalités, mais jamais on parle que c'est le capitalisme qui les génère. C'est la propriété. C'est la propriété bancaire, industrielle, commerciale. Ceux qui gèrent tout ça ont du souci en investissant dans les machines, mais très peu dans l'humain. Et conclusion, c'est pas bien difficile, vous l'avez sous les yeux, vous l'avez entendu, c'est les 1% les plus riches de la planète ont en richesse cumulée privée, rien que pour eux, 2 fois la richesse de 90% de la population mondiale. 90%, c'est 7 milliards d'habitants de la planète. Eh bien, les 1% les plus riches, donc les plus riches, c'est 1% de la population, c'est-à-dire on est 7 milliards 600 000 ou 800 000 habitants. Donc c'est 700, 1% c'est pas, c'est 70 millions, d'accord ? Les 1% les plus riches, 70 millions. Pensez, parmi les plus riches en France, c'est 3 millions de millionnaires, 70 milliardaires et donc c'est 3 millions de millionnaires. Ben, c'est 1% les plus riches de la planète, soit 70 millions, capte plus que 2 fois la richesse de 90% de la population. C'est hallucinant. Il y a 2153 milliardaires dans le monde en 2018. Ils possèdent plus de richesses que 4600 milliards. 4 milliards 600 millions de personnes, soit 60% de la population mondiale. Seulement 2000 millionnaires ont plus que 4 milliards 600 millions. Il y a seulement 10 ans, c'était plus que 3 milliards. Ils n'arrêtent pas de grimper, à concentrer le pognon. Pourquoi ils concentrent le pognon ? Parce qu'ils sont propriétaires. Aïe, 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 aïe. 7 milliardaires en France, mes amis, possèdent plus que les 30% les plus pauvres. Donc 7 milliardaires, dont notre ami Bernard Arnault, ils possèdent plus que 30% les plus pauvres. 30% de nous sommes 67 millions. 3 x 7, 21. 3 x 6, 18. Et 2, 20. 20 millions de personnes. 7 milliardaires possèdent plus que 20 millions de Français. Ah, mais c'est... Alors, voilà. Il faut essayer de comprendre comment ça vient. Donc... Les retraites, vous avez bien compris, je pense, que... Ben, je vais vous lire juste un technicien dans l'informatique qui s'appelle Anthony Smith, habite à Londres. Comme des millions de salariés britanniques, il comptait se garantir un maintien de son niveau de vie après passage à la retraite, qui sont un peu cacahuètes, en Grande-Bretagne, où Thatcher a mis les syndicats en compote avec la fameuse grève des mineurs de 1980. Donc, il voulait garantir son niveau de vie à la retraite, donc il a collecté, il a versé 10% de son salaire tous les mois à un fonds de pension de son entreprise, grande entreprise anglaise. Et donc, la rente d'environ 15 000 livres, c'est-à-dire 17 000 euros par an, lui était assurée par ce fonds de pension d'entreprise. Et ça aurait complété la très maigre retraite de base que touchent les Anglais. Elle est forfaitaire, c'est 660 euros par mois. Les Anglais, c'est les champions du capitalisme. Hein. Ouais, c'est les Américains, les champions. Mais bon, il y a les Australiens aussi. Pourquoi l'Australie est en flamme ? Eh ben, parce que les Australiens ont laissé faire des gouvernements qui n'ont rien fait. Il n'y a ni pompiers assez, ni... Voilà, on plante que de l'eucalyptus pour faire du pognon. On extrait en masse le charbon. Ils vendent l'uranium. On extrait à tout va. La nature est saccagée. Ben, quand ça prend feu, comme il n'y a pas eu d'entretien et pas de mixité, ben, tout brûle. Et voilà. L'Australie brûle parce qu'elle brûle surtout de la politique libérale. Elle brûle du réchauffement climatique, mais surtout de la politique libérale. Donc, ses économies ont flambé parce que le pauvre arrivait le crash de 2008. Un tiers du capital qu'il a économisé a disparu. Jem McGovern habite à San Francisco aux États-Unis et elle travaillait comme cadre dans une entreprise de pharmacie. Pour compléter les maigres revenus garantis par la sécurité sociale des États-Unis, autant dire des cacahuètes, puisque ces pays ultralibéraux, eux, ils veulent surtout pas que le pognon aille des uns aux autres par répartition, ils préfèrent que le pognon aille dans leur portefeuille de banque d'assurance pour ensuite investir dans le charbon, dans le pétrole, et avec une partie du bénéf, alimenter le fonds de pension et alimenter les pensions. Hein. Les gens cotisent toute leur vie. Et ensuite, on leur sert la pension pour laquelle ils ont cotisé, chacun pour sa pomme. Eh bien, elle a opté pour le fonds de pension privé également de son entreprise. Et en octobre 2008, écroulement de la valeur de son placement. Depuis cet été, ça n'arrête pas, dit-elle, en l'espace de quelques mois, mon capital a fondu de 40%. Voilà, ceux qui font confiance au système capitaliste vont être les grands perdants. Tous ceux qui prennent des actions, des obligations, des machins, des trucs. Tout ça, c'est pourquoi les Français ne sont pas idiots. Ils gardent le livret A, même à 0,5%, parce que ça, c'est du sûr. Mais si vous voyez arriver des trucs à 6-7%, vous allez vous faire bananer. Voilà pourquoi tout ça fonctionne. Eh bien, c'est parce que nous sommes dans un système qu'on appelle le capitalisme, qui ne peut pas être autre chose qu'antinomique avec la société, où il impose le marché comme seul régulateur des relations sociales. Hein, aujourd'hui, tu as du pognon, tu achètes, tu vends, tu trafiques, tu peux te payer des poupées gonflables, enfin bref, poupées aussi physiques, hein, pas que gonflables. Voilà, tant que tu vas au marché, tu portes tout au marché, l'amour, l'affection, les femmes, voilà, moi j'ai connu, donc dans mon ancienne habitation, j'avais demandé à une entreprise de faire un devis pour... un dégât des eaux avec le Mistral, et l'eau, ça avait fuité dans le machin. Et qu'est-ce que je vois arriver ? C'est garé devant ma maisonnette à 100 000 euros, une Ferrari 8 cylindres, 4 sorties de pot, c'est un truc qui vaut 500 000 euros. Ben, c'était le patron d'une petite entreprise de 18 plâtriers peintres. Il me dit, quel devis vous voulez que je fasse ? Moi, vous savez, votre assurance, je peux vous faire un devis à 600, je peux faire un devis à 2000. Il y avait quelques taches au plafond. Hallucinant. Lui-même me proposait de frauder. Puis après, il m'a dit, mon entreprise, pour des petites choses comme ça, je ne sais pas si ça vaut la peine. Faites donc appel à mon ouvrier Bachir qui habite dans votre lotissement. Il vous fera ça au noir. Vous vous rendez compte ? Eh bien, vous savez combien il payait Bachir ? Ça faisait 20 ans qu'il bossait. Eh bien, il le payait au SMIC. Et Bachir, il l'a fait bosser en plein mois d'août pour travailler dans une maison de retraite à Bourg-Saint-Andéol avec sa bagnole et sans ordre de mission. Donc, s'il avait un accident, c'était pour sa pomme. Et c'était pendant ses congés payés et tout ça pour qu'il puisse, le gars qui avait peur de se faire licencier, garder son emploi. Voilà ce que c'est que le capitalisme. 18 employés, une Ferrari. Donc, vous voyez le bénéfice qu'il a pu escroquer sur les ouvriers. Donc, le capital, c'est des propriétaires qui font marner pour tirer du profit. C'est rien d'autre que la motivation du profit pour le propriétaire qui est lui-même fils de propriétaire, fils de riche, etc. Le système, il a déjà 2 siècles et demi ou 3 siècles. Voilà. Et c'est complètement antinomique, le capitalisme, avec la préservation de la nature. Pour lui, la nature, c'est qu'une ressource. On va puiser dedans jusqu'à épuisement. Voilà. Les banques qui financent les entreprises, elles rivalisent d'imagination pour proposer des portefeuilles financiers maintenant dit d'actif vert, mais on se fout de notre gueule, parce qu'actif vert, c'est quoi ? C'est, vous allez exploiter du charbon, monter une centrale à charbon, comme notre Crédit Agricole finance une centrale à charbon en Turquie en ce moment, mais justement, en échange, ils vont dire qu'ils vont planter des arbres. Donc, on compense carbone. Comme dit Yann Arthus Bertrand, là, qui fait des belles photos du ciel, mais qui est un hélico-logiste tartuffe, en disant, oh, mais j'ai fait planter des arbres. Ah oui, d'accord. Tu détruis d'un côté, et de l'autre, tu plantes quelques arbres. Eh, ça suffira pas pour, empêcher la catastrophe qui nous menace d'avoir plus 7 degrés. Plus 7 degrés en moyenne, ça veut dire plus 15 ou 20 ou 30 degrés sur la Chartreuse. C'est hallucinant. Ça peut être, oui, plus 15 degrés, pas 30, plus 15 degrés, sur nos territoires. C'est-à-dire la mort, quoi. Voilà. Alors, elles peuvent compenser, donc, les dégâts qu'elles commettent, ces multinationales. Voilà. Et ça ne signifie pas qu'une véritable mutation de l'économie puisse se faire avec ce capitalisme-là. Par exemple, la fiscalité écologique ne peut pas fonctionner si elle ne redistribue pas vers les plus pauvres et si elle ne s'inscrit pas dans une grande lutte démocratique avec implication du peuple pour faire de l'écologie. Mais de l'écologie, ça se fait dans un territoire, ça se fait avec la terre du territoire, avec les forêts du territoire. Voilà. Donc, l'ampleur du rejet populaire avec les Gilets jaunes, qui ont reçu des LBD, qui ont été, 2000 ont été condamnés au tribunal, je ne sais plus combien, 300-400 prisons fermes, 7 yeux perdus, 2 mains arrachées ou 4 mains arrachées. La répression, ben maintenant, frappe aussi les syndicalistes. Et donc, tout le monde comprend que le système est bien, le système politique. Hein, l'État est bien du côté de ce système économique. Voilà, donc, l'égalité de traitement dans la retraite, ben, ça sert juste de prétexte à détruire notre système de retraite le plus juste du monde. La farce hideuse, c'est une farce du capitalisme vert, les voitures électriques, les éoliennes géantes, etc. Ça n'empêchera absolument pas la catastrophe écologique qui se prépare et qu'ils sont en train de faire. Sauf si on se bouge en masse, comme on est en train de se bouger pour la retraite, ben qu'on se bouge encore plus en masse pour arrêter la gabegie des énergies fossiles, du pétrole. Mais le pétrole, ce sont des multinationales. Hein. Abramovitch, qui est dans le pétrole russe, lui, il roule dans un yacht qui fait 300 mètres de long en Méditerranée, peinard, avec sa fortune de 9 milliards. Nos PDG, idem, ils achètent même des villas avec 10-12 agriculteurs pour se faire à bouffer en Nouvelle-Zélande, au cas où ça tourne mal et que les peuples leur demandent. Et ce qui se passe avec le capitalisme, c'est hallucinant. Vous avez 60% des jeunes qui disent qu'ils n'en veulent plus. Vous avez également 60% des Français. Il y a seulement 10 ans, ils étaient pour à 80% les Français. Tout le monde est en train de comprendre que c'est le capitalisme qui nous ravage et qui ravage la planète.
Again, I go on my way. I was walking with my obsessions, guided by the passion, searching something real on my way. Of introspection, I knew I had no bounds. Staying bold to lead the rules my way. Thank you. I beg the mountains to talk to me, talk to me, and yell as loud as I could so freely. Beneath the fir trees, in the dark and cold, all I could hear was me. My way, my way, my way.
Alors, quels enjeux derrière la lutte contre les inégalités et le réchauffement, hein, parce que tout ça, ça va ensemble. Voilà, ben, il arrive que maintenant, l'État joue les impuissants, il les dépasse, et il supplie les multinationales de bien vouloir être éthiques, que les entités privées, qu'elles sont, avec des actionnaires qui s'en mettent plein les fouilles, puissent se substituer à la délibération publique, c'est-à-dire c'est plus la démocratie du peuple qui dit arrêtez de nous détruire la sécurité sociale, arrêtez de polluer en faisant le tout bagnole, faites du transport propre, isolez nos bâtiments, nos HLM, mettez-nous des capteurs à eau chaude sur les HLM, que ça nous économisera 200 euros par an d'eau chaude, sanitaire. Eh ben non, c'est oh s'il vous plaît, Total, faites-nous une politique un peu plus verte, soyez un peu plus vertueux, essayez de vous réguler. Et à Davos, au sommet mondial des milliardaires et des entreprises, on a des chefs d'État qui viennent supplier les multinationales. Mais attendez, on privatise la fabrique de la norme. La loi, c'est le peuple qui doit inscrire la loi. La démocratie, c'est le peuple qui fait la loi. À tous les sens, propre et figuré. Alors, le drame de nos démocraties, c'est par l'intermédiaire de délégués. Donc, vous avez vu ce que ça donne. Élection, piège à con, délégué, bah, c'est, il y a un ouvrier sur 577 députés, et il doit y avoir 10, 12 employés, et tout le reste est au service des grands patrons. Faut arrêter ce système. Il faut faire un système, comme je vous disais tout à l'heure, où on choisit nos délégués, nos députés, anonymement par des assemblées locales. Il y a rien qui empêche de faire ce système-là. Sauf qu'il faut faire une nouvelle constituante, ou alors il faut faire au moins le RIC, référendum d'initiative citoyenne. Donc, qu'est-ce qu'on a on a une crise épouvantable du système. On voit qu'il essaye de nous appâter, de nous apitoyer sur son sort. Oh là, on a trop de charges. Oui, regardez, on fait des efforts verts. Par exemple, Air France, il va replanter des arbres pour dire que les avions polluent pas tant que ça. Mais si, les avions, ça pollue énormément. Un aller-retour New York, c'est 2 tonnes par passager de carbone. 2 tonnes, c'est quasiment un carré qui représenterait tout le cœur de Chartreuse. 2 tonnes, hein, c'est du gaz. Hein. Le gaz, c'est pas lourd. Si vous voulez 2 tonnes, il faut un volume gigantesque. Ben, un passager, c'est 2 tonnes aller-retour. Donc, eux, ils disent, ah ben, on va replanter des arbres, mais ils vont planter quoi? Ils vont planter du palmier à huile pour faire encore du profit avec le Nutella qui en contient 40%. C'est vraiment un système meurtrier à tout point de vue. Et puis, les entreprises du CAC 40 en France, c'est 40 grands patrons qui ont quelques centaines de gros actionnaires, dont notre millionnaire Bernard Arnault. Eh ben, les entreprises que les productifs travailleurs français font tourner, elles ont versé 60 milliards d'euros à leurs actionnaires en 2009, leurs plus gros actionnaires. Hein. Ça se compte sur les doigts de quelques mains. dont 11 milliards sous forme de rachat d'actions. Vous vous rendez compte ? Et pour l'ensemble des entreprises françaises, petites et moyennes entreprises, qui n'ont pas d'actionnaires, hein, moyennes quelques-unes, eh ben c'est 90 milliards qui ont été servis à nos millionnaires et milliardaires, qui sont, comme on les appelle joliment, les investisseurs, qui ont le pognon, quoi. Eh ben le pognon revient au pognon. C'est-à-dire, pratiquement, les trois quarts des bénéfices de Sanofi, notre grande multinationale de la pharmacie, repartent dans les mains des actionnaires. Et un quart, ça sert à refaire de l'usine et à rémunérer différents investissements. Mais vous vous rendez compte ? Trois quarts des bénéfices faits sur le dos des travailleurs de la chimie repartent dans les mains. Ce n'est pas les patrons, c'est les actionnaires. Mais les grands patrons, eux, ils ont en moyenne... Les grands patrons du CAC 40, on les paye bien, hein, parce qu'ils sont eux-mêmes actionnaires. Mais c'est eux qui tiennent les rênes des entreprises. Et eux, ils ont entre 3 et 4 millions par mois. Non, mais voilà d'où viennent les inégalités. Et donc, il est temps de se séparer de ce système. Je ne sais pas comment vous le dire, mais il y a une inquiétude dans ce milieu. Ils veulent essayer de se reverdir pour se rendre acceptable, malgré que tout le monde voit bien que c'est épouvantablement fabrique d'inégalités, de souffrances sociales. Ça déplume les meilleures conquêtes qu'on a. Ça rend pauvres des tas de pauvres. Ça tue la culture. La seule culture, c'est celle de l'argent. Donc, et les élites commencent à être inquiètes. Hein. Je crois que Bruno Le Maire là, a dit, voilà, il faut qu'on fasse quelque chose. La nouvelle patronne de l'Europe a dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose d'un peu vert. Bref, ils cherchent à se relégitimer alors que leur base sociale est en train de dégringoler. Voilà pourquoi ils cognent fort. Parce qu'ils n'ont plus, disons, la cote. Quand vous avez la cote, vous n'êtes pas obligé de taper puisque les gens font ce que vous espérez qu'ils fassent. Tout le monde travaille, les travailleurs travaillent, les étudiants étudient, voilà. Mais quand les gens se rendent compte que le système est en train de les spolier, de les opprimer, de les rendre malades avec sa chimie, ses antibiotiques et tout ça, ils sont en train de se révolter. Et donc, ils n'ont plus la cote. Alors à ce moment-là, il faut cogner. Et c'est comme ça qu'on a découragé les gilets jaunes d'aller manifester, et comme ça qu'on commence à cogner sur les travailleurs. Vous avez vu le nombre de gus de la CGT qui sont maintenant au tribunal ? Exactement ce qui est arrivé aux gilets jaunes. Alors, il est temps d'être solidaire et des gilets jaunes et des CGTistes qui sont, pas que les CGTistes, d'ailleurs, il y a des forces ouvrières, il y a des Suds, etc. Vous avez bien vu, il y a même des avocats qui prennent leur toge et qui balancent tout ça par-dessus bord. Ça commence à se radicaliser. Pourquoi ? Parce que personne ne veut se faire spolier au profit des fonds de pension par un État qui est entièrement leur valet. Donc, la base devient étroite, donc on cogne. Et du coup, on entonne l'ère de l'immigration illégale, ça c'est Marine Le Pen, les nouvelles technologies, ça c'est le capitalisme, l'électricité propre, etc. Voilà, derrière les figures de style, le souci est comment continuer à surexploiter les ressources humaines et naturelles sans tuer la poule aux œufs d'or. En petite forme, ces temps-ci, comment mater les salariés, les femmes, les jeunes, les racisés, les résistances syndicales sans provoquer de révolte majeure, tout en instillant discrètement du racisme, du sexisme, de la concurrence généralisée entre les gens. Une retraite à points, c'est quoi ? Chacun pour sa pomme, je gère mes petits points et je t'emmerde. Voilà. Et puis, comme j'ai un peu de pognon, je vais prendre une complémentaire dans les fonds de pension et j'aurai une bonne retraite et je pourrai rouler en SUV. Donc, c'est ce système qu'il faut arrêter. Pour les dominants et leurs hommes demain, il ne s'agit pas de mettre fin aux saccages sociaux et environnementaux en cours, mais d'y trouver un prétexte à refaire les mêmes choix économiques et sociaux insensés. Hein, on continue à industrialiser avec l'électricité produite par des éoliennes géantes qui mettent 900 tonnes de béton dans le sol par éolienne. On veut en faire 18 000 en France, c'est de la folie furieuse. Le seul projet raisonnable, mes amis, n'est-ce pas d'abolir le capitalisme, de construire un autre monde social, démocratique, égalitaire et viable. Et vous voyez que l'interview précédente là, des élus du parc de Chartreuse et du cœur de Chartreuse vont dans ce sens, parce que moi je suis épaté par la Chartreuse. Avoir inventé, comme ils l'ont fait, un groupement foncier agricole mutualiste du côté du col de Porte, mais c'est fabuleux. Ils s'inventent ici des régulations pour essayer de remettre la terre agricole entre les mains de petits exploitants agricoles ou de coopératives en vue de fabriquer un peu de l'alimentation de plus en plus locale pour nos cantines, pour nos enfants, en bonne santé et avec et sans pesticides, justement. Donc là, ça évolue. La Chartreuse, c'est un pays d'incroyable solidarité et ça bouge. Alors moi, je suis très content de chroniquer. Et je vous remercie de votre attention. Je répondrai la prochaine fois à quelques critiques et remarques qui m'ont été faites. Si je digresse, comme le disent certains, ça n'est point seulement un défaut, peut-être c'en est un, c'est surtout parce que les choses doivent être prises dans leur ensemble, globalement et systématiquement. Ce qui fait système, c'est pas seulement un propriétaire d'une usine, c'est que si cette usine-là est prise dans un système général, et si on n'abolit pas le système général, on n'aura rien changé de fondamental. Or, on peut commencer, sur le plan local, à se rendre propriétaire collectif de nos territoires en y installant soit des coopératives agricoles, soit des communes gérées par les habitants, soit des terres comme ce fameux GAFAM, ce fameux groupement agricole mutuel où ce sont les habitants qui sont propriétaires. Bref, il nous faut faire des communs, du commun, c'est-à-dire, comme au temps de ma jeunesse, avoir un étang à carpe de la commune dans lequel les communaux, les habitants puissent aller pêcher de la carpe. Il nous faut avoir un accès à l'eau qui soit en régie publique. Il nous faut avoir des cantines en régie publique gérées avec les habitants, avec les enfants qui participent. Voilà, l'époque est à la démocratie directe et l'époque est au commun, à la prise en main d'abord en bas, de nos moyens de production, de nos moyens d'échange. Il faut qu'on aille des petites banques qui aident à ce développement local. Si des jeunes veulent s'installer, qu'ils leur prêtent un peu de pognon pour installer 3-4 serres et qu'ils puissent démarrer et pas à 6% et qu'ils puissent faire à manger bio et propre pour tout le monde, tout en gagnant leur vie. Je vous remercie. Si vous voulez bien réagir, c'est au 06 75 80 05 79. On adore le SMS, pas du tout les mails, parce que j'en reçois trop. Donc, André Dunis, votre chroniqueur et votre serviteur, est au 06 75 80 05 79 et sera heureux de vous répondre en direct ou de recevoir vos SMS et j'y répondrai naturellement. Bonne soirée, bonne journée, bonne semaine et belle année.
C'était la Seine Cause pour un bien commun et un monde vivable.